Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Il existe plusieurs types de cancers de l'intestin. Il y a le cancer de l'intestin grêle. C'est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules de l'intestin grêle. L'intestin grêle ou petit intestin fait partie de l'appareil digestif. Le risque d'être atteint d'un cancer de l'intestin grêle augmente avec l'âge. La plupart des personnes qui en sont diagnostiquées ont environ 60 ans. Avec 43 000 nouveaux cas et près de 18 000 décès par an, le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier en France. La grande majorité des personnes diagnostiquées ont plus de 50 ans. Le cancer colorectal se développe lentement à l'intérieur du côlon ou du rectum à partir de petites lésions appelées polypes. Comment détecter ces cancers? Comment les soigner? Quels sont les symptômes? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Au téléphone d'Africa Radio, nous sommes en compagnie du docteur Aude Guillemin Jobard. Elle est oncologue à l'Institut Curie et à l'hôpital Ambroise Paré, c'est du côté de Boulogne-Billancourt. Nous rejoignons également le docteur David Malka de l'Institut Gustave Roussy, spécialiste aussi des cancers digestifs, et en duplex d'Abidjan, le docteur Anno Marin, directeur de l'espace médical La Pyramide, ce qui nous permettra d'évoquer le cas du continent africain. Alors avant de vous donner la parole, chers invités, nous allons écouter les témoignages d'habitants de Paris concernant le cancer colorectal. Plusieurs personnes interrogées font part du manque d'informations concernant ce cancer. On les écoute et on se retrouve dans un instant.
Ah, écoutez, désolé, mais le cancer colorectal ne me dit absolument rien du tout. Désolé. Bah voilà, c'est la première fois que j'entends. Et elle me dit, ouais, ça touche une tranche d'âge, c'est ça? De 50 à 60 ans, aucune idée pour moi.
Ce serait bien intéressant de savoir, mais ça provient du foie. Pour la prochaine fois, j'irai faire un dépistage. D'ailleurs, même j'ai un rendez-vous à l'hôpital, donc j'irai en faire.
Hein. Pas d'infos sur cette maladie, désolé.
Ah non, en fait, je ne connais pas ce genre de maladie là. Donc c'est la première fois que j'apprends ça. Oui.
Ça ne me vaut que rien, je n'ai jamais entendu parler.
Ouais, je vais en parler, parce que là maintenant, même juste après, je vais chercher sur Google et tout, voir un peu ce que c'est et tout, comment ça se manifeste et tout, ça va. Parce que là, ça fait peur.
Ça dépend. En général, je n'ai pas assez de temps, c'est pour ça aussi. Mais ouais, pourquoi pas.
Alors, bonjour à vous. Bonjour, docteur Aude Guillemin Jobard. Il y a plusieurs types de cancers de l'intestin. À part le cancer de l'intestin grêle et le colorectal, y en a-t-il d'autres?
Bonjour. Le tube digestif commence au niveau de l'œsophage, juste après la bouche, puis se poursuit dans l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, et se termine enfin au niveau du canal anal. Donc, en effet, quand on parle de cancer de l'intestin, en général, on parle du cancer colorectal, qui est le plus fréquent. Mais des cancers peuvent se développer aux dépens des autres organes précités, avec des prises en charge bien différentes.
Docteur David Malka, bonjour. Après avoir entendu les témoignages de plusieurs personnes habitant Paris, est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait un manque d'informations concernant ce cancer? En fait, plusieurs personnes qui réagissaient ont affirmé ne pas savoir ce qu'est le cancer colorectal.
Hélas, non, je ne suis pas surpris. Ça a beau être l'un des quatre cancers les plus fréquents et un cancer meurtrier, il reste notoirement méconnu de la population générale. Il y a clairement un défaut d'information sur ce qu'on est capable de faire, notamment en termes de dépistage, de prévention. Il y a beaucoup à faire encore.
Alors comment expliquer cette méconnaissance justement alors qu'il y a des campagnes de dépistage qui sont en place?
Par le fait que tout le monde est à risque. Donc personne ne se sent vraiment concerné. On ne peut pas cibler soit les femmes, soit les hommes, soit les fumeurs, etc. Qu'on soit homme, femme, fumeur, non fumeur, on est à risque dès lors qu'on atteint 50 ans. Et donc ça fait beaucoup de monde. Les symptômes sont vagues. Peu de personnes médiatiques ont également révélé qu'elles étaient atteintes d'un cancer du côlon, au contraire du cancer du sang, par exemple. Des personnalités, des célébrités ont pu faire pour la cause de la connaissance de ce cancer. Donc il y a clairement un déficit d'information dans l'opinion publique et de médiatisation, ça c'est sûr.
Alors est-ce que, docteur David Malka, est-ce que tous les types de cancers de l'intestin sont dangereux s'ils ne sont pas soignés à temps?
Oui, c'est valable pour beaucoup de cancers. Ça l'est particulièrement pour le cancer colorectal parce que on connaît la lésion précancéreuse qui préexiste avant ces cancers. C'est un certain type de polype qu'on appelle l'adénome. D'ailleurs, il n'est pas toujours sous forme de polype, c'est-à-dire sous forme de relief, hein, il peut être plat. Alors, tous les adénomes ne deviennent pas des adénocarcinomes, hein, des cancers, mais tous les adénocarcinomes, pratiquement, ont été des adénomes, un jour. Et ça, c'est important, ça veut dire que si on est capable de détecter les adénomes, par exemple, par le test de dépistage fécal tous les deux ans, peut-être 50 ans, ou par la coloscopie, eh ben, en enlevant les adénomes, ce que fait la coloscopie, elle est à la fois diagnostique et thérapeutique, eh bien, on va couper l'arbre sous le pied du développement du cancer, et donc éviter qu'il devienne un adénocarcinome. Donc, clairement, quand on intervient tôt, on est guéri. Et même quand on est au stade de cancer, pour qu'il soit débutant, superficiel, eh bien, la guérison est complète par l'ablation dans plus de 90% des cas, sans chimiothérapie, sans rayon, etc. Donc c'est très important de faire un diagnostic précoce. Malheureusement, il y a encore trop de cancers qui sont diagnostiqués à un stade avancé où les traitements sont beaucoup plus importants et la guérison pas assurée du tout.
Docteur Aude Guillemin-Jobard, quelles sont les causes de développement de ce type de cancer de l'intestin et en particulier du cancer colorectal?
Alors, comme l'a dit le docteur Malka, le cancer colorectal se développe à partir de cette tumeur bénigne qu'on appelle le polype adénomateux ou l'adénome. Donc, l'origine du cancer colorectal est liée à un ensemble de facteurs qu'on peut classer en plusieurs catégories. Donc, le premier facteur identifié, très important, c'est l'âge, bien sûr, donc supérieur à 50 ans. Les autres facteurs sont ceux liés à l'environnement et au mode de vie, donc l'obésité, la sédentarité, la consommation excessive de viande rouge ou de boissons alcoolisées, et le tabagisme augmente le risque de développer un cancer du côlon. Donc c'est très important de bien connaître ces facteurs car ils sont modifiables et on peut agir dessus pour diminuer le risque de cancer en adoptant une hygiène de vie saine. Donc les autres antécédents sont l'existence d'une maladie inflammatoire intestinale comme par exemple la maladie de Crohn et donc ces patients qui sont atteints de ces maladies ont un suivi très rapproché par les gastro-entérologues. La génétique aussi joue un rôle. Le risque de développer un cancer du côlon augmente en cas d'antécédent personnel ou familial de polype ou de cancer colorectal et certaines familles ont des syndromes génétiques de prédisposition au cancer. Donc en fonction des risques identifiés là que j'ai précités, on détermine trois niveaux de risque, moyen, élevé ou très élevé, avec des dépistages qui sont différents.
Quels sont les symptômes pour ces cancers?
Alors les symptômes pour ces cancers, donc en général, c'est d'abord une altération d'état général, donc de la fatigue, une perte de poids et une perte d'appétit. Les autres symptômes sont les symptômes digestifs, comme des douleurs abdominales, des modifications du transit à type d'alternance de diarrhée, de constipation. Et parfois, on peut même voir du sang dans les selles. Et donc ça, ce sont des signes d'alerte qui nécessitent de consulter son médecin traitant.
Docteur Anomarin, bonjour. Est-ce que vous constatez en Côte d'Ivoire une augmentation du nombre de cas de ces cancers, en particulier du cancer colorectal?
Bonjour Nadi, bonjour Aïssa, bonjour mes chers collègues de Curie et de Gustave Roussy. Effectivement, docteur Aude l'a dit, hein, il y a les facteurs de prédisposition, il y a des facteurs de risque éthiopathogéniques dus au mode de vie. Donc, en Côte d'Ivoire particulièrement, on retrouve ces facteurs. Alors, avoir des chiffres exacts, ce serait un peu élaboré, mais les derniers chiffres qui datent de 2015 nous disent qu'effectivement, nous avions 1,4% de cancer du tube digestif, comme elle a si bien dit, qui correspondent au cancer de l'intestin grêle. Les cancers colorectaux viennent après ceux du cancer hépatique, du pancréas et des autres organes, par exemple de l'estomac.
Est-ce que vous constatez aussi une augmentation du nombre de décès suite à ces cancers?
Alors, parler du nombre de décès suite à ces cancers nous emmène à parler de la survie nette, de la survie après le diagnostic exact de ce cancer. Mes prédécesseurs l'ont dit, le diagnostic il est tardif, il y a une méconnaissance de la maladie tant au niveau des professionnels de la santé comme des patients eux-mêmes. Alors aujourd'hui, cette survie dépend de beaucoup de facteurs, les autres l'ont dit. En général, plus il est diagnostiqué tôt, mieux il est guéri. Et il y a des facteurs de prédisposition qui font que le diagnostic il est tardif et le cancer il est connu après des complications, soit une perforation gastrique, soit des occlusions, soit un stade évolutif très avancé.
Est-ce que les Ivoiriens consultent un médecin dès l'apparition des premiers symptômes ?
Alors, malheureusement, dès l'apparition des premiers symptômes, nous, chez nous, ici, nous sommes en zone tropicale, nous avions des maladies tropicales, infectieuses ou parasitaires, qui croisent les premiers signes de cette maladie, dont les autres l'ont dit, c'est la présence de sel dans les sangs, c'est des troubles du transit, et soit une constipation, une diarrhée, des douleurs abdominales. Donc, généralement, devant ces signes-là, les gens disent « j'ai une colopathie », c'est un mot de langage qui est assez fréquent, « j'ai une colopathie », ils s'arrêtent là, ils ne consultent pas exactement ce qu'ils devraient consulter pour pouvoir faire un diagnostic précis et précoce.
Est-ce que les grandes villes sont plus concernées que les campagnes ?
Bon. Alors, effectivement, en Afrique, comme je vous disais, les signes d'appel de cette maladie-là, c'est la présence des sels dans le sang. En zone urbaine, généralement, les gens ne font pas trop attention. En zone rurale, les gens font les sels dans les cours d'eau, à l'air libre. Donc, on n'a pas la présence, on n'a pas cette matérialisation pour pouvoir avoir la présence des sels dans le sang. Et puis, il y a un mode de vie qui est les lavements purgatifs qui sont utilisés ici en zone rurale, faits à base de produits corrosifs, toxiques et qui agressent la muqueuse de l'estomac. Donc, tous ces facteurs-là ne sont pas favorables pour nous ici en Afrique.
Alors, docteur Aude Guillemin-Jobard, on a entendu en début d'émission des témoignages d'habitants de Paris qui connaissent très peu le cancer colorectal et ont peu d'informations. Malgré des campagnes de dépistage, comment expliquer cette méconnaissance ?
Comment expliquer cette méconnaissance ? Le rôle d'information ne doit pas être assuré a priori. C'est probablement que les médecins traitants n'ont pas signalé aux patients la nécessité de faire ces dépistages ou que la consultation auprès des médecins traitants ne se fait pas régulièrement. Donc c'est le rôle des médecins d'informer les patients, mais aussi de la presse, et donc il doit y avoir un problème de relais d'information. Oui.
Quels sont les soins appropriés à ce type de cancer ?
Alors, une fois que le diagnostic de cancer est posé par la biopsie, donc qui est généralement faite au moment de la coloscopie, le traitement va dépendre de l'extension de la maladie, c'est-à-dire du fait qu'elle est disséminée ou non à distance pour former ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire une atteinte d'autres organes. Donc pour cela, pour savoir si cette maladie s'est propagée à distance, on fait des scanners, des examens d'imagerie. Et donc après, une fois qu'on aura bien diagnostiqué, bien identifié la maladie, les soins vont être réalisés par des équipes pluridisciplinaires, donc plusieurs spécialités, les chirurgiens, les gastro-entérologues, les oncologues. Les chirurgiens vont avoir pour mission d'opérer le cancer, c'est-à-dire de le retirer, et parfois, quand c'est possible, même de retirer les métastases. Les oncologues, comme le docteur Malka et moi-même, ont pour mission d'assurer la prescription et la surveillance de la chimiothérapie. Et par ailleurs, les équipes de soins de support sont aussi très importantes pour assurer la prise en charge et donc la tolérance de la chirurgie et de la chimiothérapie. Et donc ces soins de support, c'est la prise en charge diététique, de l'activité physique et le traitement des symptômes, comme par exemple la douleur.
Docteur David Malka, est-ce que le type de soins diffère en fonction du stade du cancer ?
Bien sûr. Plus le cancer sera pris tôt et plus le traitement sera bref, peu contraignant, peu mutilant et efficace. Et malheureusement, à mesure que le cancer devient plus grave, les soins seront plus lourds et plus incertains. Par exemple, la chimiothérapie n'est pas utile dans les stades précoces du cancer colorectal. Au stade 1 et pour le plus souvent pour le stade 2, on n'a pas besoin de chimiothérapie. Seule l'ablation par endoscopie, quand c'est possible ou pas chirurgie sinon, résume le traitement et suffit à assurer la guérison. Mmh.
En revanche, la chimiothérapie, vous pensez qu'elle est obligatoire en cas de stade avancé du cancer ?
Oui.
Voire très avancé.
Dès le stade 3, c'est-à-dire où la tumeur est apparemment localisée encore au côlon rectum, mais a déjà diffusé, s'est déjà propagé vers les ganglions lymphatiques de voisinage. Ces ganglions lymphatiques existent, hein, on en a, mais le fait d'avoir des cellules cancéreuses dedans n'est évidemment pas du tout normal, et ça témoigne déjà d'une capacité de diffusion et de formation de métastases de la tumeur. Dès ce stade-là, la chimiothérapie est obligatoire. On est encore dans un objectif de guérison, mais le risque de rechute est non négligeable, raison pour laquelle on fait cette chimiothérapie. Elle est préventive et diminue par deux le risque de récidive après la chirurgie d'ablation de la tumeur. Au stade de propagation sous forme de foyer cancéreux à distance, donc de métastases dans les organes, là, malheureusement, la chimiothérapie est absolument indispensable et son efficacité est plus incertaine et le cancer peut devenir mortel à ce stade.
Docteur Guillemin Jobard, à partir de quel âge faut-il se faire dépister régulièrement ?
Alors, le dépistage dépend donc des catégories de risque des patients. Donc, pour les personnes à risque modéré, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 50 ans, n'ayant pas d'histoire familiale de polype ou personnelle ou d'antécédents de maladies digestives, pas de symptômes, dans ce cas, il faut faire le dépistage par recherche de sang dans les selles à partir de 50 ans. Pour les personnes à risque élevé et à risque très élevé, donc en cas d'histoire familiale de cancer, de maladies digestives ou de symptômes, on sort complètement de ce cadre de dépistage généralisé. Et là, on rentre dans le cadre de dépistage individualisé. Donc là, il n'y a pas de notion d'âge. Dans ce cas, il faut consulter le médecin traitant. Il va interroger le patient, identifier les facteurs de risque et identifier le moment où il faudra commencer le dépistage. Et en général, dans ces cas-là, c'est plutôt une coloscopie. Et donc, il faudra voir un gastro-entérologue.
À partir de 50 ans, mais faut-il le faire combien de fois ? Une fois par an ou une fois tous les deux ans ? Docteur Aude Guillemin.
Si le test, le premier test est négatif, il faut le refaire tous les deux ans. Donc après, s'il devient positif, on sort complètement du dépistage généralisé. Et là, ça dépendra au cas par cas de ce qu'on a découvert. Et donc le suivi sera personnalisé.
Où peut-on se faire dépister, docteur Aude Guillemin-Jobard ?
Donc chez soi. Parce que en grossissant, certains polypes vont entraîner un saignement qui est invisible à l'œil nu. Et donc le dépistage consiste à repérer dans les selles des traces de sang qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc si vous avez entre 50 et 74 ans, vous allez recevoir par la poste un courrier qui va vous inviter à faire ce test qui sera à retirer chez votre médecin traitant. Donc c'est important que ce soit le médecin traitant qui remette ce test parce qu'il va justement vous interroger sur votre histoire personnelle et familiale et voir si ce test de dépistage est approprié, s'il ne faut pas plutôt directement faire une coloscopie. Donc s'il considère que vous rentrez dans le cadre du dépistage généralisé, il va vous remettre le test et vous l'expliquer. Et donc vous le ferez chez vous. Vous allez prélever de manière très hygiénique un échantillon de vos selles grâce à une tige qui sera replacée dans un tube hermétique. Et ce tube sera envoyé grâce à une enveloppe qui est remise gratuitement par la poste. Et vous recevrez les résultats ainsi que votre médecin traitant.
Docteur Malka, quel est l'état d'esprit des malades que vous soignez, des personnes qui viennent se faire dépister ? Est-ce qu'il y a une forte inquiétude quand les personnes se font dépister pour la première fois et qui se font soigner par la suite ?
Quand on a fait un test, comme disait ma collègue, quand on a fait le test chez soi, hein, puisque le test de dépistage est le seul test de dépistage de cancer qu'on fait à domicile, quand on veut, le jour, la nuit, le week-end, etc., et que ce test est positif, la première chose, c'est à se dire, c'est pas de panique. Hein. C'est pas parce que le test est positif et donc a détecté des traces microscopiques de sang dans les selles que c'est forcément un cancer. Ça peut être un polype, ça peut être rien, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'aller à la coloscopie pour voir de quoi il retourne. Quand malheureusement la coloscopie a pu détecter un cancer, là non plus, pas de panique, ce cancer, s'il a été détecté tôt, c'est généralement le cas quand on l'a détecté par dépistage, c'est-à-dire avant d'avoir les symptômes, hein. Le dépistage, c'est quand on n'a aucun symptôme. Sinon, c'est pas du dépistage, c'est du diagnostic. On va chez son docteur pour savoir pourquoi on a mal, pourquoi on a des troubles du transit, pourquoi on a du sang dans les selles. Donc ça, c'est autre chose. Si la coloscopie a détecté un cancer suite à un test fécal de dépistage, et bien souvent le cancer est pris à temps et la guérison peut être assurée dans ces cas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans plus de 90% des cas, on va être guéri. Il n'en reste pas moins qu'annoncer un cancer à quelqu'un, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est souvent vécu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce que effectivement, les facteurs de risque ne sont pas aussi écrasants et aussi évidents pour d'autres cancers. Quand on annonce à un gros fumeur qui a un cancer du poumon, c'est aussi une très mauvaise nouvelle, mais il n'est pas très surpris, on va dire. Là, pour le coup, pour le cancer colorectal, c'est souvent un cataclysme pour les gens.
Alors, docteur Aude Guillemin-Jobard, est-ce que tout le monde reçoit le test après 50 ans et que se passe-t-il si on ne le reçoit pas? Et est-ce que ce test est pris en charge par la Sécurité sociale?
Alors, on ne reçoit pas le test par la poste, on reçoit un courrier qui nous invite à faire ce test pour ensuite aller consulter le médecin traitant. Donc ça reste une démarche personnelle, il faut aller voir le médecin, le gastro-entérologue, mais plutôt en général en première ligne le médecin traitant. Donc oui, tout le monde doit recevoir ce courrier à partir de l'âge de 50 ans. Et oui, c'est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale.
Et si on ne le reçoit pas, il faut aller chez son médecin traitant?
Oui, d'où l'importance de ces communications que vous faites, parce que si en effet il y a eu un problème et que le courrier n'a pas été reçu, il faut vraiment que la population soit sensibilisée. On a vu que c'était pas forcément le cas suite à votre interview, et donc c'est très important que nous on communique là-dessus pour pallier à ces problèmes parfois de réception des courriers.
Docteur Anomarin, est-ce que les Ivoiriens sont suffisamment informés sur ces cancers?
Effectivement, de plus en plus, les Ivoiriens commencent à être informés par le programme national de lutte contre le cancer qui est dirigé par le professeur Adoubi et par le centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie dirigé par le professeur Koulibaly Didi Koukou. Alors aujourd'hui, il y a ces structures-là qui, avec l'aide des ONG, des organismes internationaux et des médecins traitants, les gens sont beaucoup informés sur sur les cancers en général, les plus fréquents en Côte d'Ivoire, mais certains cancers qui sont d'autant plus rares comme ceux de l'intestin dont nous parlons ce matin.
Est-ce qu'il y a aussi des tests de prévention comme c'est le cas en France pour les hommes ou les femmes à partir de 50 ans?
Alors, ici, on a ces cancers-là un peu plus à l'âge un peu plus jeune. Hein. Donc, effectivement, il y a ces structures dont je viens de citer, surtout le centre d'oncologie qui, effectivement, sensibilise, pratique ces dépistages. Auparavant, moi personnellement, j'ai eu à transférer en fonction du niveau socio-économique, soit au Ghana, à Korlobo Hospital pour des prises en charge de radiothérapie, et même à Gustave Roussier à Villejuif et puis à Curie, j'ai eu jusqu'à 2015 à accompagner personnellement des malades ivoiriens là-bas qui ont été bien pris en charge. Mais aujourd'hui, nous faisons moins de transferts parce que la prise en charge ici s'est améliorée, surtout avec ce centre national d'oncologie médicale dont j'en parlais de radiothérapie. Donc aujourd'hui, il y a une meilleure prise en charge des cancers de manière générale en Côte d'Ivoire. Et on a de bons chiffres. On pousse au diagnostic précoce, à la sensibilisation, au mode de vie et réduction des facteurs étiopiques. Éthiopathogénique et puis une meilleure prise en charge thérapeutique.
Alors docteur David Malka, nous sommes actuellement dans une période de pandémie de Covid-19, et est-ce que vous constatez qu'avec la Covid, il y a moins de tests pratiqués ou moins de consultations colorectales?
Ah oui, nettement. Ça a été particulièrement net pendant la première vague, pendant le premier confinement, où il y a eu un effondrement du dépistage, qui est pratiquement à l'arrêt dans beaucoup de régions. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, comme par exemple une enquête faite par mes collègues du Grand Est, hein, à Reims et à Colmar, où tant au CHU qu'au Centre de lutte contre le cancer ou au Centre hospitalier général, le dépistage s'est effondré de plus de 90%.
Il y a eu aussi un retentissement sur d'autres activités, hein, la chirurgie, parce que il a fallu garder les places de réanimation pour les patients Covid. Vous avez parfois besoin de réanimation transitoire après une chirurgie. La chimiothérapie un peu aussi, la radiothérapie aussi. Mais le plus net, ça a été du fait des patients eux-mêmes qui ont hésité à venir à l'hôpital pour faire leurs examens alors qu'ils avaient des symptômes, par exemple, soit par peur du Covid dans les hôpitaux, soit par volonté de ne pas surcharger les équipes soignantes, ce qui est tout à leur honneur, mais malheureusement qui a pu éventuellement faire que leur cancer ont continué à progresser et à croître et à proliférer pendant ce temps-là, avec éventuellement des conséquences en termes de soins à leur apporter et peut-être de pronostic, comme le suggèrent certaines enquêtes et simulations qu'on a pu faire. On estime qu'on pourrait avoir un excès de mortalité par prise en charge insuffisante de certains cancers du fait de la première vague. Mmh. Pour la deuxième vague, c'est encore trop tôt pour le dire, mais on a pu fort utilement tirer des leçons de la première vague et corriger certaines choses inquiétantes qu'on avait pu observer lors de la première.
Docteur David Malka, a-t-on plus de chances de développer une forme grave de Covid si on est atteint d'un cancer colorectal ?
Eh ben, on a pu le craindre au début, notamment nos collègues asiatiques qui ont fait les premières publications donnaient des résultats alarmants de la survenue d'une infection Covid chez les patients atteints de cancer, de tout type, hein, pas simplement cancer colorectal. On a pu affiner ces résultats et revoir un peu à la baisse ces chiffres alarmants. Globalement, le risque, il est surtout lié au terrain qui est aussi celui du cancer. Hein. On a souvent plus de 50, 60 ou 70 ans quand on a un cancer. On peut avoir donc des comorbidités. Ce que l'on sait, c'est que la chimiothérapie n'entraîne pas beaucoup d'immunodéficience, à part des grosses chimiothérapies qui ne sont pas celles du cancer colorectal d'habitude. Pour faire attention à ne pas faire baisser trop certains types de globules blancs avec la chimiothérapie, je pense notamment aux lymphocytes, puisque c'est les lymphocytes qui servent aussi à défendre contre les virus. Donc si on a baissé trop, on pourrait avoir un risque. Mais globalement, on n'a pas plus de risques tellement que ceux liés à son âge, à son surpoids éventuellement, au fait d'être un homme, c'est un risque de Covid sévère, etc. Donc c'est plutôt le terrain que le cancer. Mmh. D'autres cancers ont moins de chance. Hein. Je pense notamment au cancer du poumon parce que évidemment on a souvent une maladie pulmonaire sous-jacente et si on fait un Covid par-dessus, les choses peuvent être plus sévères.
Alors, docteur Aude Guillemin-Jobard, est-ce qu'on peut revenir sur le test, hein, beaucoup de nos auditeurs écoutent. Comment on fait le test concrètement? C'est vrai que ça a été longtemps été considéré comme compliqué à réaliser.
Eh bien, donc une fois qu'on a récupéré le test chez le médecin traitant, on rentre chez soi et donc il faut en effet prélever une selle grâce à un plastique qu'on nous remet. Et donc une fois que on a ce prélèvement, on met la tige donc dans la selle. Donc on n'a pas besoin d'avoir de contact direct avec ça, ce qui n'est pas très agréable et ce qui en effet est très très mal perçu par les patients, on peut le comprendre. Et donc on fait ce prélèvement grâce à la tige et on le met dans un tube et ce tube est mis dans une enveloppe et on l'envoie. Donc honnêtement, il est très simplifié. J'entends beaucoup de patients qui disent qu'ils n'ont pas envie de le faire parce que c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est pas un test compliqué et quand on voit le service que ça peut rendre derrière, ça vaut vraiment vraiment le coup de le faire.
C'est aussi le cas de la coloscopie. On a un peu de mal en fait à la faire.
Alors la coloscopie, c'est vrai que c'est un examen plus invasif, hein, parce que pour le coup, il faut avoir une consultation d'abord avec un gastro-entérologue, donc qui va expliquer comment se passe l'examen. C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, donc il faut voir un anesthésiste avant, et il faut faire une purge pour bien nettoyer le côlon. En fait, la coloscopie, c'est une caméra qu'on passe par le bas et qui remonte dans tout le tube digestif, et donc pour bien voir la paroi du tube digestif, et donc pour bien voir les polypes, il faut que ce tube soit totalement propre. Et donc oui, là en effet, c'est un examen qui est un peu plus difficile parce que la préparation est importante, qu'il faut adapter son régime avant, mais finalement, ça se fait sous anesthésie générale et ce n'est pas source de douleur, mais ça peut se faire en ambulatoire. Dans une clinique ou dans un hôpital, vous arrivez le matin en général et vous repartez le soir après cet examen.
Très rapidement, docteur Haute-Guillemin-Jobard, concernant l'envoi du test, donc c'est dans une enveloppe, l'enveloppe, il y a l'adresse et elle est pré-timbrée.
Exactement. Donc c'est vraiment tout est fait pour faciliter la tâche des patients.
Merci à tous les trois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Plus d'infos sur Internet, sur le site, par exemple, de la Ligue contre le cancer. N'hésitez pas sur le site de Santé publique France également. Merci de votre fidélité. Dans un instant, c'est l'info. Nous prendrons la direction de Dakar pour retrouver nos collègues de BBC Afrique avant de retrouver Black and Proud dans un instant. C'est la pause en attendant.